Bonjour, le 22 janvier dernier, c'était la première fois que nous faisions une incursion dans la pensée indienne, dans ce magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous vous en proposons une nouvelle diffusion aujourd'hui. Si vous pratiquez le yoga ou si vous avez l'intention de vous y mettre, il va sans doute attiser votre curiosité. Nous allons en effet nous intéresser à un des grands textes universels, la Bhagavad Gita, une épopée mais aussi un dialogue philosophique sur fond de conflits cosmiques, comme le souligne notre invitée Colette Poggi, qui nous en propose une interprétation dans un beau livre publié aux éditions des Équateurs. La Bhagavad Gita, c'est, ajoute-t-elle, le lieu où s'affrontent inexorablement ordre et chaos, un nombre infini de commencements et de fins, un océan atemporel dont les vagues apparaissent comme autant de périodes cosmiques, théâtre du monde, scène humaine, de l'oubli et de la mémoire, et éternel recommencement. Dans le même esprit qui fut le nôtre quand nous avons parlé ici même de l'Iliade et de l'Odyssée et d'Homère, nous allons entrer à nouveau dans un univers mythologique pour mieux le comprendre et saisir ses résonances contemporaines. Bonjour Colette Poggi.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission. Grâce à vous donc, c'est ce que je disais au début de cette émission, au tout début, nous allons parler de la pensée indienne. Vous êtes philosophe, indianiste, spécialiste du sanskrit et vous enseignez d'ailleurs la pensée indienne. Vous êtes également une spécialiste du yoga et vous nous proposez ainsi la Bhagavad Gita ou l'art d'agir avec des illustrations d'Emily Poggi. C'est un très beau livre qui nous permet de mieux comprendre cette œuvre. Avant de parler de la Bhagavad Gita, Colette Poggi, j'aimerais que nous fassions connaissance, car ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre une spécialiste du sanskrit.
Eh bien, écoutez, il faut être sûrement un petit peu audacieux et avoir envie, avoir le goût de l'aventure intellectuelle et peut-être plus l'aventure de la grande aventure de la vie. Car en effet, si j'ai commencé la recherche, cette quête, on pourrait dire, sur la pensée de l'Inde, l'univers, l'imaginaire extrêmement luxuriant de l'Inde, c'est tout simplement parce que au tout début, je me posais des questions sur l'être, sur la connaissance de soi, sur comment être, agir dans le monde. Et c'est à l'époque du bac que j'ai commencé le yoga qui est justement l'art de la jonction et qui peut passer évidemment par le hatha yoga, le yoga de la posture, mais il y a également le yoga de la connaissance. Il y a toutes sortes de yoga. En fait, le terme yoga qui signifie s'unir à recouvre principalement le sens, la signification de se connaître soi-même, en fait d'être en lien avec sa pensée, son cœur conscience, mais aussi son souffle.
Connais-toi toi-même, disaient les Grecs, on dit les Grecs
voilà.
Après.
Ouais. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, en effet. Donc il me semblait, c'était l'année du bac tout simplement, que j'ai commencé juste le yoga, et le professeur que je remercie toujours avec grande gratitude, m'a suggéré tout de suite de lire quelques textes, et à la lecture de ces textes, bien que je n'y comprenne sûrement qu'un centième des choses, eh bien, j'ai perçu intuitivement que c'était un axe de recherche pour moi, pour ma vie même. Et lorsqu'il m'a demandé d'ailleurs pourquoi cela t'intéresse-t-il, etc., je lui ai dit « je suis certaine qu'à travers cela, on doit rencontrer des personnes extraordinaires. » Et quand je disais personnes extraordinaires, c'était aussi bien dans la vie ici et maintenant qu'à travers leurs paroles, justement, qui nous parvient dans le temps, depuis des siècles ou même des millénaires.
Des millénaires, oui. Et c'est ainsi que vous vous êtes intéressé donc à cet univers intellectuel où philosophie et sacré se mêlent.
Oui, absolument. C'est-à-dire que il n'y a pas de scission, de césure entre l'esprit et la matière, l'homme, l'individu et l'univers. Il y a plutôt dans cette vision une chaîne continue, on pourrait dire un maillage qui intègre tous les aspects de la réalité, qu'il s'agisse vraiment du brin d'herbe jusqu'au cosmos entier. Et cela a pour conséquence également que tout est en interrelation, en interdépendance, et que de cet observatoire que nous sommes, de ce laboratoire, de ce champ à cultiver que nous sommes, dans toutes ces dimensions, l'esprit, mais aussi le corps, les sensations, nos mémoires, même nos mémoires oubliées, et nos imaginations, eh bien, de cet observatoire, considéré vraiment avec justesse, pas dans le sens d'un ego, vraiment, eh bien, on peut entrer en relation, on peut entrer en consonance, justement, avec d'autres réalités, avec autrui, tout d'abord, dans la rencontre, avec une communauté, avec une langue, avec une parole, avec un imaginaire, avec des œuvres d'art qui, même si elles nous sont inconnues, eh bien, peuvent transformer, peuvent féconder l'espace que nous sommes, puisque nous ne sommes que des passagers, nous sommes de passage dans cette vie, et nous sommes aussi, comme disent la plupart des grands philosophes, amenés à mieux comprendre ce que nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, les neurosciences nous révèlent énormément sur la conscience, sur ces synapses qui évidemment font circuler de l'information. Mais pas seulement, justement, il y a aussi tout notre corps, les os, les muscles, tout interagit. Il y a eu une formidable émission sur la 5 mi-décembre qui s'appelait justement « L'homme, ce réseau social ». Où l'on comprenait bien que on ne pense pas qu'avec sa tête. Et ça, je trouve que l'Inde nous apporte cette connaissance, car le corps, avec ses multiples dimensions, est essentiel.
Ah, quand vous parlez de l'Inde, Colette Poggi, il s'agit de l'Inde ancienne,
Alors,
très ancienne.
Oui, oui. Là, je me fonde surtout sur les textes de l'Inde ancienne.
C'est-à-dire à quelle époque ?
Alors, en fait, les premiers textes que nous connaissons aujourd'hui datent à peu près du 2e ou 3e peut-être millénaire avant notre ère, mais comme l'historicité, justement, la précision chronologique n'est pas toujours excellente, disons, on va dire, le 2e millénaire avant notre ère, où sont mis au jour des textes que l'on appelle les Védas. Védas signifie la science sacrée et la connaissance. Cela vient de la racine vide, voir, connaître, qui a donné vidéo. Donc, ces textes, dans la tradition, ne sont pas écrits, ne sont pas composés par les hommes, mais sont révélés, en fait, sont transmis par, on pourrait dire, une parole cosmique, universelle, on va dire divine. Et donc, elle constitue, sur des centaines de milliers de stances, une connaissance révélée. Puis ensuite, nous avons les Upanishads au 8e siècle avant notre ère. Puis, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres textes. Puis les Tantras, qui apportent une sorte de renouvellement de cette tradition. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de comprendre que tout ne se passe que dans la transmission orale, pendant très très longtemps, jusqu'au début de notre millénaire, parce que la parole vaak, qui a donné vox vocis, d'ailleurs c'est vocal, la voix est une, donc la parole vibrée, disons, est une énergie qui transmise justement de maître à disciple, préserve des erreurs des scribes. Parce que lorsqu'on recopie un texte écrit, évidemment, inévitablement,
des erreurs se glissent au fil des copies.
Aussi,
oui.
L'on dit en Inde que l'écrit est l'ombre de la parole.
Il y a des erreurs et des interprétations différentes également.
Voilà. Alors, les interprétations sont bienvenues. Les interprétations, justement, les débats, les polémiques sont le terreau de cet extraordinaire foisonnement de courants philosophiques, d'écoles qui fleurissent, on va dire, entre cette époque du 2e millénaire avant notre ère et on peut dire jusqu'au 10e siècle, mais bien après. Aujourd'hui encore, il y a des écoles justement qui s'affrontent. C'est même ça la fait partie d'ailleurs de l'éducation des jeunes enfants qui ont accès à ces connaissances, de débattre entre eux, de se donner des défis, des énigmes, justement pour, en sanskrit, les élucider.
À quoi ressemble le sanskrit ? Pardonnez la question un peu naïve. Est-ce que c'est une langue difficile, comme elle paraît l'être quand on est occidental ?
C'est-à-dire qu'il y a à la fois une complexité du sanskrit, et à la fois pour nous une proximité, puisque le grec, le latin...
Oui, c'est une langue morte, hein.
Alors, ce n'est pas une langue morte, puisqu'elle est aujourd'hui encore pratiquée. Et le sanskrit nous ouvre des perspectives extraordinaires dans tous les domaines, parce que Là où, par exemple, en français, nous avons un mot, le corps, la terre, le ciel, l'eau, la conscience, en sanskrit, il y a un champ sémantique et lexical absolument immense, riche et nuancé. Par exemple, pour le corps, on peut dire « sharira ». Et « sharira » vient d'une racine qui veut dire « diffuser de la lumière ». Donc le corps est vu comme une sorte d'irradiation, pas seulement du corps physique, mais aussi de l'esprit, puisque c'est la connaissance qui est un feu qui attise justement cette petite braise de la vie.
Colette Poggi, alors venons-en à la Bhagavad Gita. Quelle place occupe-t-elle et à partir de quel moment apparaît-elle dans l'histoire et dans la littérature indienne?
Alors la Bhagavad Gita, donc le titre bien connu, hein, puisque c'est un des textes indiens les plus connus dans le monde, je pense, qui a été traduit dans de très nombreuses langues, signifie en fait Gita, le chant. Hein, de là vient Gitan, hein, ceux qui venaient aussi de l'Inde et qui chantaient. Donc c'est le chant, la célébration, Bhagavad, c'est on le traduit par le Seigneur ou le Bienheureux, mais en fait ça veut dire celui qui se donne en partage. Bhaga, c'est la partie, la part, ou qui participe de toute chose. Donc c'est déjà l'image d'une réalité en fait universelle. Alors ce texte s'enracine à peu près dans le 4e siècle avant, mais les études...
Donc il est relativement récent.
Voilà, il est relativement récent, mais on peut polémiquer aussi sur la datation.
Il faut se méfier des chiffres et des dates, effectivement.
Voilà. Ce texte s'inscrit en fait dans une épopée extraordinairement ancienne.
Le Mahabharata,
que l'on date vraiment peut-être d'un millénaire avant notre ère, qui contient 18 livres. 18 étant un nombre sacré, puisque la Bhagavad Gita contient aussi 18 chapitres. Hein, on parle de 108 noms, de 1008 noms d'une divinité. Et donc, le Mahabharata serait, traditionnellement, l'auteur d'un sage qui s'appelle Vyasa. Vyasa, ce terme signifie en sanskrit le compilateur. Hein, donc, il y a sûrement un jeu de sens là-dedans.
Et est-ce qu'il a existé vraiment, ou est-ce qu'il y a un auteur ou plusieurs, un peu comme Homère, pour nous,
Iliade et l'Odyssée? Absolument, puisque en fait la composition du Mahabharata sur 18 livres s'étale sur plusieurs siècles. Hein. Donc il est évident qu'il y a eu certainement plusieurs élaborations qui imbriquent en fait des histoires les unes à l'intérieur des autres. Et il se trouve que la Bhagavad Gita fait partie du 6e livre du Mahabharata, qui s'appelle « La mort de Bhishma », qui est un grand souverain guerrier. Et à l'intérieur donc de ces récits de conflits intrafamiliaux, la Bhagavad Gita a tout de suite été perçue comme une sorte de joyau dans cet écrin.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce livre, la Bhagavad Gita, a pris son indépendance par rapport au recueil dans lequel elle se trouvait auparavant, c'est-à-dire
absolument,
le Mahabharata.
Tout à fait, parce que évidemment, elle fait suite, hein, elle est un épisode, justement, avant que la grande guerre qui n'oppose les deux clans n'éclate, il y a cet épisode qui est comme un temps suspendu, qui est comme justement un temps où l'on cherche du sens, hein, puisque le héros fait un pas de côté. Mais en effet, ce que l'on appelle en Inde la tradition mémorielle, la tradition faite par les hommes, par exemple les épopées, tout ce qui a été écrit, la médecine, etc., fait partie de ce qu'on appelle la smriti, la mémoire. Mais il y a aussi une autre tradition qu'on appelle l'audition, la shruti, qui est celle-là de l'ordre de la révélation. Et effectivement, la Bhagavad Gita est devenue, ou l'est-elle dès l'origine, comme un enseignement spirituel tout à fait extraordinaire.
Alors, la Bhagavad Gita, venons-en au cœur du sujet. D'abord, Colette Poggi, pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel se déroule l'histoire? Il s'agit donc du début d'une bataille, mais pourquoi y a-t-il bataille?
Alors, il y a bataille, il y a conflit, ça nous le savons bien, hein, c'est vraiment... éternel, non seulement humain, mais c'est tout le vivant hein, qui est de l'ordre justement d'une bataille, d'une lutte. Il y a ici bataille entre deux clans familiaux qui sont liés, hein, qui ont un lien de parenté. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est parce que il y a plus profondément, de façon plus essentielle, une lutte entre des forces, des énergies d'ordre, d'harmonisation, hein, de loi, de justice, si l'on veut, et des germes, justement, d'entropie, de chaos. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette approche indienne, c'est que dès l'origine, dès la création de l'univers, en fait, l'un et l'autre sont liés. Hein, l'ordre et le désordre, c'est comme le yin et le yang, dans toute harmonie, il y a un germe de disharmonie, une sorte d'énergie qui tend à prendre le dessus. Et dans tout désordre, ça c'est beaucoup plus optimiste, il y a aussi un germe justement d'ordre, d'harmonie, d'orchestration qui, si les conditions sont bonnes, reprendra le dessus. Donc, dans ces deux familles, il y a eu une sorte d'astuce, de ruse malencontreuse, et la famille d'Arjuna, c'est-à-dire les Pandavas, ont perdu leur royaume. Ils sont partis en exil, comme il était convenu, pendant 12 ans, pour que l'autre clan règne. Et cela, justement, à la suite d'une partie de dés, hein, le jeu, mais où le jeu était truqué. Et donc, ceux qui ont joué de façon trop innocente, évidemment, en sont partis. Et il était convenu qu'au terme de ces 12 années d'exil, évidemment, ils reviendraient et ils reprendraient le pouvoir, puisqu'ils sont censés être du côté, justement, de l'ordre, ce qu'on appelle le dharma, D-H-A-R-M-A, qui veut dire, en fait, tout se tient dans l'univers. Hein. Il y a une force de cohésion. Mais malheureusement, ceux qui avaient le pouvoir ne voulaient pas le lâcher. Et c'est à ce moment-là donc qu'une lutte entre ces deux camps va prendre place. Mais ce qui est fondamental, c'est que là, l'enjeu n'est pas seulement le pouvoir. L'enjeu est l'ordre universel. Et ça, c'est vraiment important de savoir aussi que quand nous, par exemple, nous prenons position avec le sentiment de rétablir la justice contre l'injustice, eh bien, ce n'est pas que notre petit cas qui est en jeu, mais par ricochet, par onde, par contagion, il y a une sorte d'onde, justement, d'harmonisation, d'ordonnancement, de justice qui peut s'établir.
Cette histoire, la Bhagavad Gita, Colette Poggi, c'est un dialogue.
Oui,
c'est un dialogue entre le héros, Arjuna, et son cocher, qui est Krishna. Les rôles sont un peu inversés, c'est-à-dire que le cocher, c'est le dieu suprême.
Alors, mais on ne le sait pas au début. Voilà, c'est là le sel de l'histoire. C'est-à-dire que justement, Arjuna, qui est le chef, mais aussi l'archer invincible, avec toute la symbolique de l'archer, justement, le tirer à l'arc, c'est bien viser sa cible, c'est-à-dire avoir une sorte d'intuition puissante, absolument centrée, tout en ayant un lâcher-prise. C'est tout un art, évidemment, l'art du tirer à l'arc. Donc, ce maître des armes illustre vraiment dans toute l'Inde, conduit l'armée des justes, si on peut dire, des Pandavas, du côté du Dharma, et il a choisi pour cocher Krishna. Il faut dire qu'il y avait le choix entre soit un homme, Krishna, soit une armée de 100 guerriers
ouais,
extrêmement valeureux. Et il a choisi la qualité et non pas la quantité.
Alors Arjuna dit ceci à Krishna. « Ô Krishna, vois, ce sont les miens que j'aperçois au premier rang des ennemis, impatients de lutter. Tous ces êtres que j'ai chéris jadis, comment pourrais-je les combattre? Tout en moi se révolte contre cet acte. Je tremble de tout mon corps, je brûle, mon arc fidèle Gandiva s'échappe de ma main. » ni la royauté, ni aucun bien ne saurait à présent me convaincre de les affronter. C'est-à-dire que Arjuna se trouve confronté à un dilemme, en quelque sorte.
Absolument. Ça, c'est
avant cette bataille,
cette
perspective de bataille.
Tout à fait, c'est extrêmement intéressant parce que cela nous rappelle souvent des circonstances, des situations que nous avons vécues aussi, de doutes, de déchirements, que choisir. Et là, spatialement, Arjuna, alors que la bataille va commencer, est sur le point de commencer, on peut imaginer la rumeur des conques, des éléphants, des chevaux, des armes, etc. Au lieu de foncer dans la bataille, il demande à son cocher, Krishna, avec la métaphore du char aussi, il faudra que nous en parlions, de s'avancer au centre, au milieu, dans l'espace médian, dans cet espace que le sanskrit nomme Antara, Antara, qui a donné inter, hein, intermédiaire, etc. Et il fait face à ceux qu'il va combattre, alors qu'il sait très bien qui il va combattre. Mais là, il en a l'expérience directe, il veut voir. Et ce qui est tout à fait instructif, je trouve, c'est qu'il se donne la possibilité de s'effondrer. Il ne reprend pas son carcan, sa cuirasse de guerrier, mais il laisse transparaître l'être profond qu'il est, doué de sensibilité. Et à ce moment-là, je pense que toute personne qui découvre la Bhagavad Gita est de son côté. Mais en effet, pourquoi aller tuer les autres,
hein? Surtout sa famille, des membres de sa famille.
Surtout sa famille et les maîtres. C'est vraiment quelque chose de très très important pour l'Inde, ceux qui l'ont instruit, hein, dans les différents arts de l'armée, mais aussi d'autres choses. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, dans cet espace, dans cet entre-deux, dans ce temps suspendu d'une rencontre véritable, eh bien, celui qui le conduit sur son char, donc qui est moins important finalement que l'archer, se révèle être une descente, c'est-à-dire un avatar, c'est le mot sanskrit, d'une conscience, d'une divinité essentielle qui est Vishnu, qui joue le rôle ici de conscience cosmique. Mais Suta, si je peux me permettre, le cocher, en sanskrit, suta vient de la racine sou qui veut dire susciter, inviter à vivifier. Et donc c'est celui en fait qui est à la fois son ami et son Jiminy Cricket, on pourrait dire, hein. C'est celui qui va le remettre dans l'axe.
Et vous disiez tout à l'heure que le fait que cette action se passe sur un char n'est pas neutre, est importante, pourquoi ?
Alors, dans cette métaphore du char, nous pouvons voir évidemment le mouvement. Hein. Ici, il ne s'agit pas d'un enseignement spirituel dans un ashram, dans un silencieux espace sacré, plein de vénération pour le maître, etc. Non plus dans une grotte, comme c'est un petit peu l'image d'habitude des sages de l'Inde, hein, d'enseigner là. Mais dans le brouhaha, dans le fracas justement du champ de bataille, et dans un mouvement, hein. Le char évidemment va s'arrêter au milieu du champ, mais c'est quand même la symbolique que l'on voit dans de nombreux temples indiens, des chars de pierre. Alors, on peut aller plus loin, hein. La vie est mouvement, donc l'enseignement se fait dans le mouvement, mais le char est constitué par un socle carré qui symbolise la terre, un dé avec une sorte de parasol circulaire qui symbolise le ciel. Hein, donc la terre et le ciel unis justement par cet axe central du dé, hein, qui relie le ciel à la terre. Donc Arjuna, l'archer, est adossé à cet axe. Et au-devant de lui, donc, est assis le cocher, Suta, donc Krishna. Le cocher symbolise l'intuition. Donc Arjuna, le passager, symbolise l'âme immuable, éternelle, qui, quel que soit l'événement, hein, qui échouera au char, il pourra changer de char, mais cette âme est immuable. Et les chevaux symbolisent les organes des sens, y compris même la pensée qui est symbolisée par les rênes. Donc la pensée doit guider les sens, hein, qui sont les chevaux, mais cette pensée est tenue justement par l'intuition. Et quand on dit l'intuition, ici, ce n'est pas que mon petit doigt m'a dit, c'est vraiment cette dimension de l'individu qui est une sorte d'antenne reliée justement à ce dharma, à l'ordre universel. Il y a quelque chose en nous qui sait. On ne sait pas pourquoi, et qui sait même avant que nous apprenions les choses parfois. Et donc, dans cet assemblage du char, nous avons toute la métaphore du yoga aussi, yoga signifiant la jonction, et ce n'est que lorsque les sens, la pensée, on peut dire le souffle, l'intellect intuitif, justement, et l'âme ou le cœur sont bien reliés, hein, et que donc le socle aussi, le corps physique, qu'alors la vie peut se mouvoir et s'épanouir.
Colette Poggi, on pourrait imaginer qu'à ce stade de l'histoire, au début de cette histoire, au milieu de cette bataille, dans ce char, avec Arjuna et Krishna, le dieu dise « Effectivement, ce n'est pas la peine de combattre, il faut respecter la vie, il faut respecter les membres de ta famille qui sont menacés par cette guerre. » Or, pas du tout. Lui dit « Plaisir et souffrance, richesse et misère, victoire et défaite sont en dernier ressort deux aspects de la même réalité. » Pourquoi chercher alors à échapper à ta mission ? Il te faut agir et combattre. Il serait néfaste de faire autrement.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où le chagrin, où la lutte, etc. sont inéluctables. Il faut faire face. Par exemple, si l'on voit dans la rue un enfant, une femme ou un être fragile se faire agresser, faut-il rester les bras croisés ? Non. Il y a des moments où il faut vraiment intervenir. L'action est le propre de l'homme. Il est configuré avec ses organes des sens, avec son corps, justement pour agir. Et d'ailleurs, dans le texte et dans beaucoup d'autres textes, ce texte ayant été commenté par de grands philosophes de l'Inde également, il est dit que pas un seul instant... l'être humain ne peut rester sans agir. Je pensais par exemple à Abhinavagupta, ce grand maître du shivaïsme cachemirien 10e-11e siècle, qui a commenté la Gita et qui dit justement, mais même si l'on ne fait rien physiquement, la pensée produit justement des idées, des remémorations, des imaginations, et même la parole de toute façon, et de ce fait, l'acte karman, qui est vraiment, peut-on dire, le mot-clé de la Gita, avec dharma, l'ordre cosmique, karman, c'est agir, mais aussi les fruits de l'acte, c'est-à-dire que toute action a une conséquence. Eh bien, cette action se décline en trois éléments fondamentaux, interreliés, bien sûr, évidemment le geste, l'acte physique, mais aussi la parole qui va soit vivifier, donner des énergies, lorsqu'on nous parle avec bienveillance, la parole qui peut aussi détruire quelqu'un, qui peut aussi vraiment dissoudre toutes les énergies bénéfiques dans notre être, et également justement la pensée. La pensée, justement, fait partie du yoga à part entière. Il ne s'agit pas de faire des postures magnifiques, et puis en ayant des pensées égocentriques, orgueilleuses ou maléfiques pour les autres, mais justement le véritable yoga, qui peut évidemment prendre de multiples formes, c'est d'avoir une sorte de, je dirais même, d'hygiène en soi pour rendre transparent, léger, fluide tout notre être.
Avec cette phrase déterminante, qui n'agit pas, ne sait pas. Oui. C'est-à-dire que l'action est liée à la connaissance.
Tout à fait. Action et connaissance sont vraiment les deux ailes de cet oiseau, justement, oiseau en mouvement. Un oiseau sans bouger ne peut rester dans le ciel. Même lorsqu'il plane, il y a cette conscience du déploiement des ailes, etc. D'où l'image aussi, au tout début du livre, du funambule. Le funambule, c'est celui qui avance sur le fil, comme nous, nous avançons sur le fil de la vie, hein, en perpétuel équilibre des équilibres. Hein, c'est-à-dire que pas un instant, nous ne pouvons être assurés de poursuivre notre chemin. Hein. À tout instant, justement, l'ordre, l'harmonie intérieure, la consonance avec l'univers, ou tout simplement avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos amis, tout est remis en question. Et cela, c'est une idée que l'on retrouve hein, dans l'histoire des idées, dans les Védas, donc deuxième millénaire avant notre ère, où l'on s'interroge sur l'ordre cosmique. D'où vient l'univers hein ? Comment cela est-il fait ? Donc, tout cet ordre, cette vie qui, en même temps, est autour de nous, mais est en nous, nous sommes la vie, tout cela est considéré comme un don. Ça, c'est extrêmement important, dont nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes juste les passagers, hein, comme Arjuna l'est sur le char. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est non seulement un don, hein, pour l'écologie, je trouve que c'est toute une philosophie à entendre, mais elle est aussi d'instant en instant à réinstaurer. C'est-à-dire que même après, dans le contexte indien, après par exemple un rituel, un sacrifice, où tout est bien dans la norme, hein, eh bien, il faut d'instant en instant réactiver ce sentiment justement de yoga, hein, de jonction. Sinon, il s'ensuit une sorte de désagencement, désagrégation du tissu justement qui tisse la vie et l'univers.
Quand vous écrivez, Colette Poggi, que le yoga est détachement et renoncement aux injonctions du moi.
Tout à fait.
De moi.
Voilà. Alors le moi, ça c'est le grand problème et c'est aussi vraiment, je suis toujours émerveillée de voir dans ces textes indiens une telle analyse qui va bien au-delà de il faut, il ne faut pas. Mais on nous explique par exemple comment dans les cycles cosmiques qui sont un peu comme en Grèce l'âge d'or, l'âge d'argent, etc., des reins et puis de fer. Nous sommes dans le Kali Yuga. Pour l'Inde, c'est-à-dire l'âge du conflit, ce quatrième cycle qui implique justement la confusion. On ne sait plus vraiment où on en est, un peu comme Arjuna au milieu du champ de bataille. Alors peut-être faut-il nous mettre au milieu et prendre le temps de réfléchir. Eh bien, dans le Kali Yuga, il y a la discorde, la confusion. On dit que les enfants deviennent adultes à 5 ans. Qu'il y a de grandes catastrophes, on pourrait dire écologiques. Hein. Il y a des sortes de liquides visqueux et malodorants qui se répandent. Enfin bon, on peut penser aux catastrophes pétrolières, etc. Et alors, on se pose aussi la question, mais pourquoi ? D'où vient cela ? Eh bien, la réponse des Puranas, donc des textes anciens de l'Antiquité qui évoquent ces cycles cosmiques, dit du sens du moi. Voilà. C'est parce que petit à petit, depuis on pourrait dire l'âge d'or où tout circule, tout est fluide, où respect envers l'autre, envers la nature, il y a une sorte d'accélération et d'intensification de l'individualisme, du sens du moi, au détriment justement de l'intérêt de la communauté, d'autrui, de la terre peut-être, et donc l'ego est considéré comme extraordinairement artificiel. Nous forgeons un moi, hein, c'est ahamkara. Kara, vous voyez, c'est comme karman, c'est créer, c'est faire. Et donc, tout le travail, l'art du yoga et des autres enseignements spirituels consiste en effet à se défaire des gangs figés, justement, qui fige la circulation du souffle, de la pensée, de la conscience, et qui empêche de voir, puisque ça devient opaque, où est l'autre, qui est l'autre. Et alors, de ce fait, l'hostilité, hein, le désir d'expansion de puissance prend le dessus.
Tasya Srimad Bhagavad Gita Mala Mahamantrasya Bhagavan Vedavyasa Rishihi Anushtup Chandaha Shri Krishna Paramatma Devata Ashochanandvashochastvam Prajnavatamscha Bhashase Iti Bijam Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Iti Shaktihi Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Mashucha Iti Kilakam Shri Krishna Prasada Siddhyarthe Bhagavad Gita Parayane Viniyogaha
Idée
Atha Karanyasaha
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, il y a l'action dans le contexte avec la signification que vous venez d'expliquer, Colette Poggi, et il y a cette importance du présent. Vous écrivez « N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de savoir, plus tard peut-être, lorsqu'on aura fait ceci ou cela, seul existe l'instant présent entre l'essentiel et l'urgent, deux registres distincts, lequel prévaut en moi aujourd'hui. Seul existe l'instant présent », écrivez-vous.
Absolument.
En référence à ce texte de la Bhagavad Gita.
En fait, tout se passe comme si nous voulions tout le temps échapper à nous-mêmes. Et donc, le temps est ce temps qui court comme la roue. Vous voyez, une roue qui inéluctablement irait de l'avant en oubliant le centre. Or, dans la symbolique, dans l'imaginaire de l'Inde, alors je dis de l'Inde parce que c'est aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme, l'instant, Kshana a une importance cruciale, puisque rien vraiment n'existe que dans l'instant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Et cette idée de l'instant, que l'on dit par exemple en sanskrit « iha »,« iha », signifie encore plus « ici et maintenant ». Il y a à la fois le lieu, ici et maintenant. Alors, à quel moment, si vous voulez... Nous-mêmes, on pourrait s'interroger sur nous-mêmes, avons-nous vraiment vécu le moment présent ? Voilà. Ce qui est très intéressant dans la philosophie indienne, c'est que tout part de l'expérience. Ce ne sont pas des élucubrations pour être plus intelligent ou plus original que son prédécesseur ou que son rival. C'est juste...
Pensez aux Grecs des siècles après,
non ? Non, je pense au temps présent, justement.
Ouais, aux écoles philosophiques. Ouais.
Non, mais c'est le débat et la polémique sont vraiment extrêmement féconds. Mmh. Mais là, vraiment, ces philosophes sont presque toujours, en majeure partie, des yogins, des sages qui cherchent à comprendre vraiment à partir de l'intériorité. C'est pour ça que nous pouvons nous y reconnaître. Et donc, si on revient justement à notre propre expérience, il me semble que c'est dans des moments vraiment d'intensité où la pensée n'était plus capable de courir dans le futur ou dans le passé, mais était tout entière ramassée, recueillie, intensément présente justement dans l'instant que nous avons connu vraiment la plénitude. Voilà. C'est pour cela que Krishna insiste là-dessus. Et ça, justement, c'est un viatique pour notre temps aujourd'hui si déchiré avec les problèmes de la Covid, avec toutes ces guerres, les migrants, les conflits, l'écologie. Nous sommes déchirés de toutes parts. On pourrait perdre pied. Le seul moyen, justement, d'être avec le Dharma et même le Svadharma, sa propre mission à accomplir, si petite soit-elle, que ce soit un petit rien, une goutte d'eau, c'est de revenir vraiment dans ce centre que nous sommes et que nous oublions.
Avec cette distinction qu'il faut répéter, Colette Poggi, c'est qu'il s'agit de se recentrer, de profiter du présent, mais ne pas penser à soi, c'est pas pour soi. Alors, là, on revient à l'ego, au moi.
Alors, voilà. On va reprendre l'image de la sphère avec des poupées russes, avec justement des emboîtements concentriques. Il faut un espace central. Voilà. Et cet espace central, c'est le soi. Le soi qui est vraiment trans-individuel. Hein, le soi qui est comme la pure lumière, qui est l'âme, la conscience universelle en chaque être, sinon il n'existerait pas. Hein, comme une petite lumière que l'on allume. Voilà, la lumière est ainsi, elle est pure lumière. Sitôt que l'on est vivant, il y a une enveloppe, un peu comme dans une amande fraîche, vous savez, il y a la pulpe, et il y a une enveloppe presque translucide, qui est le « je suis ». Le « je suis », justement, c'est ce sentiment d'exister, pleinement présent, hein, mais qui n'est pas encore engoncé, rigidifié par le « moi ». Le « moi », ce serait comme l'écorce de l'amande, autour, justement, qui est bien rigide. On se construit un moi, des habitudes. C'est ce qui m'intéresse le plus sur Terre. C'est pas la ville, c'est pas la famille, c'est moi. Hein, voilà. Les autres, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le moi. Mais ce que nous apprend la Bhagavad Gita, c'est qu'il y a cet antara, justement, cet entre-deux, cette prise de conscience du « je suis ». Que l'on voit dans l'autre, d'ailleurs. Sitôt que l'on est, on se réfère, évidemment, nous sommes un corps bien particulier. Hein, nous avons un conscient, un inconscient, dont parlait l'Inde aussi. Hein, ces mémoires oubliées, ces vestiges inconscients. Mais lorsque nous sommes, par exemple, en dialogue, ou devant une œuvre d'art, ou devant la mer infinie, ou un horizon en montagne, est-ce que c'est le moi qui est présent ou c'est le je suis ? Il y a une sorte d'ouverture, on pourrait dire d'éclosion, ce sont les mots que l'on emploie en fait dans les textes anciens. Et même Arjuna, à un moment donné, dans la Bhagavad Gita, demande à Krishna, mais s'il est vrai que tu es cette conscience cosmique, alors moi je veux la voir. Ça ne me suffit pas de l'entendre, je veux la voir, je veux faire cette expérience. Et à ce moment-là, Krishna se dévoile, hein, c'est au 11e chapitre, à peu près au milieu, puisqu'il y a 18 livres, se dévoile comme Vishnu. Et le texte dit, c'est comme si des millions de soleils apparaissaient en même temps. Hein. Et à l'intérieur, justement, de cette globalité, il peut percevoir l'infinie multiplicité du réel. Voilà. Donc, il y a le soi, Atman, hein, il y a le je suis, Aham, et il y a le moi. Tout le monde est constitué comme ça. Mais libre à nous, hein, c'est justement la grande aventure de notre vie intérieure et de notre quête de plénitude. Hein. Si on veut vraiment rencontrer quelqu'un, si je ne suis que le moi, je suis vraiment un mur. Hein. Et si je suis dans le je suis, justement, il y a cette respiration. Et je dois ajouter encore un des petits miracles du sanskrit, c'est que le je suis aham. A-H-A-M, est constitué du phonème A, Ha et M. A, c'est l'originel, la création, l'effusion perpétuelle de la vie. Ha, c'est la dernière lettre de l'alphabet. A était la première, la dernière des 50 lettres, c'est l'expire. Et M, le me est justement l'union des deux. Et ainsi, on peut dire que le je suis est un souffle. Inspire, expire, et la vibration qui sous-tend tout cela.
C'est la première fois que sur RFI, nous avons une leçon de sanskrit dans une émission. Je vous en remercie, Colette Poggi, quoique peut-être qu'il y en a eu d'autres. Et donc, on comprend pourquoi ce texte a eu une influence considérable chez des millions de personnes, de sages ou pas, et des responsables politiques aussi, à commencer par Gandhi.
Oui, Gandhi, tout à fait. Gandhi, qui a donc prôné l'ahimsa, la non-violence, dans son désir d'indépendance de l'Inde, disait lui-même que même au creux le plus profond, au moment du désespoir, du désarroi le plus terrible, emprisonné pendant ces mois de jeûne, jamais un moment où la Gita ne l'ait sauvé. C'est-à-dire que même dans le désespoir le plus profond, il pouvait ouvrir la Bhagavad Gita à n'importe quelle page et il se sentait de nouveau insufflé par une énergie vraiment d'action non pas pour lui-même, mais altruiste, justement parce que c'est dans l'ordre des choses d'apporter au monde, si l'on en est capable, hein, si c'est son sadharma, de l'harmonie.
Tout comme Nelson Mandela
tout
a
comme
été marqué
Nelson
par
Mandela,
ce texte.
Même chose, c'est en prison, puisqu'il a passé 24 ans en prison, je crois, qu'il a rencontré, puisqu'il était lui-même juriste, hein, un autre juriste d'origine indienne qui connaissait la Gita, qui la connaissait par cœur, je dois dire, et qui lui a appris quelques éléments. Et cela a été une sorte de révolution intérieure pour Nelson Mandela. Il le dit, hein, qu'il s'en est vraiment inspiré. Et j'avais lu un passage d'un article de Barack Obama qui disait justement que grâce à cela, Nelson Mandela n'avait jamais sombré dans le défaitisme, hein, dans le cynisme, mais qu'il avait toujours justement remonté la pente et qu'il avait continué de se battre justement dans l'esprit de cette action désintéressée, hein, mais qui passe à travers lui d'autant plus librement et efficiente que justement il n'agit pas pour le moi.
Et ce texte étant, vous le dites, un condensé, je vous cite, de l'expérience humaine.
Oui, il me semble. Il me semble parce que chacun de nous a connu le doute, le désarroi. Faut-il agir, ne serait-ce que pour dénoncer, par exemple, des injustices, hein, des maltraitements pour les enfants, pour les femmes ou pour autrui, pour les migrants. Alors, faut-il ne rien dire ou faut-il justement prôner cette désobéissance créatrice, hein, comme par exemple Vandana Shiva.
Alors, finalement, Arjuna se bat-il ou pas ?
Absolument. Arjuna va entendre, au deux sens du terme, par les oreilles, mais aussi comprendre cette injonction de Krishna, dresse-toi, éveille-toi, hein, puisque physiquement Arjuna s'était effondré.
Oui, il y a un moment de détresse, Arjuna.
Voilà,
un
sur
moment,
son char, ou peut-être même au sol, sur la terre. Et donc Krishna l'invoque à accomplir ce qu'il doit accomplir, hein, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire...
Il accomplit sa destinée.
Accomplir sa destinée. Donc la bataille aura bien lieu, 18 jours, hein, le 18 revient, et il y aura vraiment une hécatombe, ça c'est certain, mais le dharma vaincra. Hein, et donc le dharma, il faut être très confiant. Finalement, il est dit dans la pensée indienne que les forces du mal finalement se détruisent elles-mêmes. Hein, et que toujours, finalement, la vérité, c'est-à-dire satyam, la vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai, est vainqueur. D'ailleurs, c'est la devise de l'Inde, satyam eva jayate, c'est toujours la vérité qui finit par triompher.
C'est sur cette note optimiste que nous allons conclure notre conversation, Colette Poggi. Je vous remercie vraiment pour la générosité et l'enthousiasme que vous mettez dans vos propos. Je recommande vivement ce beau livre, hein, qui s'intitule « La Bhagavad Gita ou l'art d'agir », publié aux éditions des Équateurs avec des illustrations d'Émilie Poggi. Un grand merci, Colette Poggi.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, www.rfi.fr, et sur votre moteur de recherche préféré. On se retrouve dimanche prochain à 15h10, temps universel, pour un autre numéro d'idées. Et nous nous mettrons dans la peau d'un chêne, si j'ose dire. Vous comprendrez. À dimanche.